Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur le dossier Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. De 1991 à 1997, il tue 7 femmes à Paris. La plupart dans l'Est de la capitale, d'où son surnom. Pendant toutes ces années, les policiers du 36 quai des Orfèvres vont chercher, enquêter, buter, jusqu'au traumatisme professionnel. Les Français, eux, découvrent la figure du serial killer qu'ils pensaient réservée aux États-Unis et une sorte de psychose collective auto-alimentée gagne la capitale et le pays tout entier. Pendant plusieurs mois, les policiers traquent ce tueur qu'ils ne parviennent pas à identifier. Ils savent pourtant, ils disposent d'un ADN commun retrouvé sur plusieurs victimes, mais impossible de mettre un nom sur le tueur de l'Est parisien. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Ponce, avocate, elle a défendu Guy Georges lors de son procès en avril 2001 et elle témoigne dans le livre de Julia Minkowski et Lisa Vignoli intitulé « L'avocate d'une femme, le procès de leur vie ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire. Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Le 26 janvier 1991, il est minuit 48 quand le chef de groupe de la brigade criminelle de Paris de permanence, ce soir-là, est réveillé. Michel Bustamante a l'habitude de ses appels nocturnes. Cela fait presque 15 ans qu'il est inspecteur divisionnaire au 36 quai des Orfèvres. Lui et son équipe doivent tout de suite se rendre sur la scène d'un crime à Paris dans le 14e arrondissement. Arrivé sur les lieux, l'équipe de Michel Bustamante entre dans l'immeuble et gravit les 6 étages qui mènent à une petite chambre de bonne. Sur le lit simple du petit studio gît Pascal Escarfaille, une jeune femme blonde de petite taille. Elle est dénudée, sa tête est renversée en arrière, ses bras sont derrière son buste. Elle a la gorge tranchée, on découvre son collant retourné, sa jupe à l'envers. Son t-shirt noir est rabattu vers le haut pour dégager ses seins. Le soutien-gorge est coupé entre les deux bonnets, son sous-vêtement aussi, des deux côtés. Entre le studio et le corps de la jeune fille violentée et violée, le contraste est saisissant. Les 4 policiers sont sous le choc. Ils reprennent leur esprit et constatent les faits. Le sac à main de la victime, ses papiers d'identité, sa carte bancaire sont introuvables. Le téléphone a été arraché. À 3h du matin, Michel Bustamante appelle le père de la victime pour lui annoncer la terrible nouvelle. À l'autre bout du fil, Jean-Pierre Escarfaille reste sans voix. La douleur dans le silence. L'enquête commence. Elle sonde d'abord le voisinage, interroge les proches. La photo de Pascal Escarfaille et son dossier sont mises en évidence sur le bureau de Michel Bustamante, comme une obsession, avec ce désir de ne jamais lâcher, considérer ce dossier comme une affaire personnelle. Mais rien, pas un témoignage, pas un élément, pas un début de piste pour retrouver le coupable. Dans ce genre de situation, on a coutume de dire que l'enquête piétine, une formule commode pour théoriser l'échec. L'absence d'effraction et les fragiles témoignages des voisins laissent penser que l'assassin est un proche de sa victime. Alors, son tour à tour soupçonné le père de Pascal Escarfaille, son petit ami, ses copines de la fac, le fils d'un magistrat, puis de nouveaux éléments viennent étayer le dossier, croit-on. Le rapprochement avec un autre crime quelques années auparavant dans la maison du grand-père de la victime. On soupçonne un électricien présent sur les lieux des deux drames. Pure coïncidence, des lettres anonymes sont envoyées. Fausse piste, là encore. Les enquêteurs ne le savent pas, mais ils viennent de découvrir le premier meurtre d'une série macabre. L'auteur de ce crime, c'est Guy Georges. En ce mois de janvier 1991, il est en semi-liberté à la maison d'arrêt de Caen. Le soir du drame, il a décidé de ne pas rentrer à la prison et il tue. De 1991 à 1997, Guy Georges va agresser et enlever la vie à une dizaine de femmes à Paris. Pascal Escarfaille est la première victime d'une liste. Pendant 6 ans, la brigade criminelle va traquer ce serial killer, le suivre tout au long de ses 7 meurtres et de ses agressions. Une longue traque dont la presse ne s'empare réellement qu'en 1997. 15 novembre 1997, Paris, 11e arrondissement. Estelle Magde est retrouvée morte dans son appartement 2 mois seulement après la découverte du corps de l'étudiante Magali Sirotti par l'équipe du commandant Vasquez. Pour la première fois, l'hypothèse d'un tueur en série est évoquée par la presse.
Sans vouloir exagérer, on peut dire ce soir qu'une petite psychose est en train de gagner le 11e arrondissement de Paris, autrement dit les quartiers de Bastille et de République. Dans cet arrondissement, en effet, on a retrouvé le week-end dernier le corps d'une jeune femme de 25 ans, égorgée, chez elle. Et on pense que son assassin pourrait être un tueur en série, un serial killer, comme on dit aux États-Unis, qui aurait déjà assassiné deux femmes en 94 et 95 dans le même secteur géographique. Et peut-être d'ailleurs une quatrième jeune femme, le 23 septembre dernier, cette fois-ci dans le 19e arrondissement.
Depuis 3 ans, l'équipe de la brigade criminelle de Gerald Sanderson enquête sur une série de meurtres de jeunes femmes dans des appartements. Lorsqu'elle découvre le cas d'Estelle Magde, elle sait. Les policiers reconnaissent immédiatement la signature du tueur en série, celui qu'ils cherchent. Dans l'appartement, on trouve un sweatshirt gris clair à capuche. Les premiers prélèvements de sueur sur ce vêtement sont immédiatement envoyés pour analyse génétique. Les résultats confirment la première impression des policiers. Il s'agit bien de l'ADN de SK1 pour Serial Killer numéro 1, découvert dès 1995. En effet, c'est le même code génétique que celui retrouvé sur les autres scènes de crime le 9 décembre 1994 chez Agnès Nischkamp, une décoratrice d'intérieur de 32 ans. Et le 8 juillet 1995, chez Hélène Frimking, une psychomotricienne de 23 ans. Toutes les deux ont été violées et égorgées selon le même rituel, et toutes les deux dans l'est de Paris. Et ce n'est pas fini. On trouve le même ADN que sur le mégot de cigarette laissé par l'homme chez Elisabeth Ortega, cette jeune femme rescapée. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1995, elle a croisé la route du suspect, mais elle a réussi à s'enfuir. Alors elle devient le témoin clé de l'enquête. Elle dresse un portrait robot de l'homme, le décrivant comme maghrébin puissant et athlétique. Pendant des mois, elle aide les policiers dans leur patrouille, entre Bastille et République. Elle s'improvise auxiliaire de police. De surcroît, les enquêteurs ont dans leur jeu un autre indice. Chez l'une des victimes, ils ont retrouvé dans son sang une empreinte de pied dont le second orteil est plus grand que le pouce. C'est ce qu'on appelle un pied égyptien, assez rare pour être noté. Alors ils interpellent à tout va, ils déchaussent, ils vérifient, ils font des prises de sang pour comparer les ADN. Mais ce coup de pouce n'en est pas un. Les investigations sur ce terrain ne donnent rien. Le temps passe et quelques circonstances aggravantes s'invitent. Les attentats à Saint-Michel de 1995, la mort de la princesse Lady Di, autant d'événements qui mobilisent les enquêteurs et les détournent de leur objectif. Ainsi, quand il découvre en 1997, coup sur coup, les cadavres de Magali Sirotti et d'Estelle Magde, il est trop tard, le tueur est revenu et a encore sévi. Chez les parents des victimes, c'est la colère et l'incompréhension. Ceux de Magali Sirotti confient leur effroi.
On ne sait rien, depuis 2 mois, on ne sait rien.
Ils nous ont rien dit, c'est tout.
Il faut surtout absolument que ça cesse, qu'il n'y en ait pas d'autres. Parce que, on disait peut-être qu'ils vont l'attraper parce que notre fille, bon... C'est la dernière, il faut que ce soit la dernière, et puis ouais. Non, malheureusement, maintenant une autre famille est dans le même cas que nous, et c'est malheureux à dire.
Et pourtant, depuis un an, une nouvelle patronne est arrivée à la tête de la brigade criminelle. Elle s'appelle Martine Monteil. On l'a dit poigne de fer dans un gant de velours, capable de remettre de l'ordre au 36 quai des Orfèvres. Et puis, elle fait de l'assassinat de femmes une priorité, une affaire personnelle, elle aussi. La policière sent que dans cette histoire, quelque chose cloche. Elle détecte un manque de discussion et de cohésion entre les équipes, notamment entre celles de Gérard Sanderson et de Christian Pellegrin. Le premier s'occupe des meurtres en appartement, le second enquête depuis 1994 sur 2 meurtres perpétrés dans des parkings, ceux de Catherine Rocher, le 6 janvier 1994, et d'Elsa Benadi, le 6 novembre de la même année. Même tableau, les deux femmes ont été retrouvées, violées, poignardées dans leur voiture, dans un parking souterrain. Dans les deux cas, aucun témoin. Une tache de sang sur un prospectus et une empreinte digitale sur le capot de la voiture pour seul indice. En revanche, c'est le même mode opératoire. Les sous-vêtements sont découpés à l'arme blanche, entre les bonnets pour le soutien-gorge, sur les côtés pour le sous-vêtement. La braguette des pantalons est découpée. Les victimes présentent des traces de coups de couteau sur la poitrine et sur la gorge. Détails sordides, mais éléments fondamentaux pour l'enquête, d'où leur évocation dans ce récit. Certes, des éléments diffèrent entre les meurtres des appartements et ceux des parkings, mais tout de même, il y a des similitudes. Et c'est aussi ce que se dit la troisième équipe, celle de Michel Bustamante, qui travaille depuis des années sur le meurtre de Pascal Scarfaille et le meurtre de 1991. Au moment de l'assassinat d'Estelle Magde en 1997, le dernier en date, un membre de l'équipe entend la description de la scène découverte par ses collègues. Il demande à voir les photographies. Il les compare à celles de Pascal Escarfaille. Bingo, c'est du copier-coller. En cette fin d'année 1997, la brigade criminelle en est désormais quasi certaine. Les 7 meurtres commis de 1991 à 1997 sont l'œuvre du même tueur. Alors on s'active et on décide de rappeler la rescapée, Elisabeth Ortega, pour mettre à jour le portrait robot du suspect et le diffuser.
Depuis ce matin, le portrait robot du tueur en série de l'Est parisien est placardé sur les murs de tous les commissariats. Il est aussi publié aujourd'hui par Le Parisien et par France Soir. Du coup, le téléphone n'a pas arrêté de sonner à la brigade criminelle et ce soir, il semblerait que la police ait élargi son enquête. On parlerait maintenant de 7 meurtres.
La brigade criminelle se retrouve face à ce qu'elle redoute depuis le début, une fuite médiatique. En effet, la presse diffuse l'information. Les familles des victimes prennent la parole. Le tueur en série se retrouve sous le feu des projecteurs. Cette exposition pourrait le faire fuir, donc il faut agir, et vite. Toutes les équipes se mettent sur l'affaire. Le juge d'instruction en charge du dossier, Gilbert Thiel, passe à la vitesse supérieure. C'est une course contre la montre. Les policiers lancent un appel à témoins. Le suspect est de type nord-africain, âgé de 25-30 ans. Il mesure entre 1m75 et 1m80. Athlétique, 80 kilos environ, teint très mat. Il s'exprime en français, sans accent, porte un blouson de type Bombers, couleur foncée, un numéro vert est diffusé. À partir du 26 novembre 1997, le portrait robot du tueur présumé est partout. La presse le publie en une, les journaux télévisés ouvrent sur le monstre de la Bastille, comme ils disent, le tueur de l'Est parisien. Alors l'inquiétude s'installe à Paris. Pas forcément la psychose, mais l'inquiétude. Jour et nuit, la police est harcelée de coups de téléphone. Tout le monde pense avoir croisé le serial killer au coin de la rue. Les jeunes femmes n'osent plus sortir ou rentrer seules la nuit. Les ventes de bombes lacrymogènes explosent. Les journalistes sondent ce sentiment qui gagne tout un quartier de la capitale à l'image de cette femme qui témoigne au micro de France Inter.
Les gens en parlent beaucoup, les gens ont peur et les gens achètent le journal pour voir le portrait robot et voir ce qu'il en est, essayer de faire quelque chose pour que ça avance et qu'on le retrouve, je crois. On achète le journal pour le portrait robot et à la suite de ça, eh bien, certaines personnes ont l'impression systématiquement de l'avoir rencontré ou de le côtoyer quotidiennement. C'est sûr, c'est lui. Bon, certaines personnes, effectivement, sont persuadées d'avoir côtoyé le meurtrier. Bizarrement, je pensais qu'étant donné que c'est un personnage qui a l'air de s'attaquer aux jeunes femmes, c'était plutôt les jeunes femmes qui avaient peur. Apparemment, non. Les jeunes femmes ont peur, mais aussi les femmes, les gens âgés, un petit peu tout le monde se sent concerné. Dans le voisinage, des portes qui étaient habituellement assez ouvertes de jour comme de nuit, des portes d'immeubles qui ont un code, sont maintenant fermées parce qu'on prend des précautions.
Chez le juge Gilbert Thiel et au 36 quai des Orfèvres, le plus important reste l'identification du tueur. Et on sait à quel point un portrait robot est fragile. Alors, que faire? Eh bien, c'est une faille juridique qui va venir au secours des enquêteurs et leur permettre de découvrir enfin qui se cache derrière le tueur de l'Est parisien.
Sometimes I think I'm a killer. I scared you in your house. I even scared myself by talking about Dahmer on your couch. But I can't sleep next to a body, even harmless in death. Plus I'm pretty sure sick and tired.
Le juge d'instruction Gilbert Thiel fait partie de ces hommes que la réputation précède. Sa bonhomie et son franc-parler sont légendaires. Bourreau de travail, il peut se montrer parfois expéditif. Depuis qu'il a pris en charge le dossier des meurtres du tueur en série de l'Est parisien, il s'en est fait la promesse. Lui et les équipes mobilisées retrouveront l'homme qui a commis ces crimes. Obsessionnel, là encore. Le problème, c'est qu'en 1997, il n'existe pas en France de fichier de recherche génétique national qui centraliserait les ADN des différents criminels sexuels. Alors Gilbert Thiel profite d'une faille juridique. La loi interdit de constituer des fichiers génétiques, effectivement, mais elle n'empêche pas de comparer au cas par cas un ADN avec d'autres traces. Le juge d'instruction ordonne alors à tous les laboratoires de France de comparer l'ADN masculin inconnu de SK1 à ceux dont ils disposent dans leur laboratoire, un par un. Et le 24 mars 1998, l'initiative paye. Le docteur Pascal du laboratoire de génétique de Nantes téléphone au juge Thiel. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle », lui dit-il. Il commence par la bonne. On a identifié le tueur. Oui, il s'appelle Guy Georges. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est déjà passé par les services de la crime au cours de l'enquête. Au 36 quai des Orfèvres, l'ambiance est lourde. Soulagé de mettre enfin un nom sur le tueur de la Bastille, mais atterré à l'idée que eux, les enquêteurs, ont laissé passer cet individu, ce criminel entre les mailles du filet, c'est insupportable. 3 ans auparavant, Charles Belgrin a auditionné Guy Georges. Effectivement, il est en prison pour agression. Or, cet individu n'était pas maghrébin, métis, et puis n'avait pas le pied égyptien, enfin rien qui ne corresponde aux premiers indices relevés après les premiers meurtres de femmes à Paris. Alors, on oublie cette piste. Quoi qu'il en soit, il faut traquer le suspect dans la capitale, il n'y a plus de temps à perdre. Sa photographie est distribuée à tous les commissariats de la ville, tous les services sont mobilisés et patrouillent dans Paris. Des journalistes apprennent la nouvelle, la police leur demande avec insistance d'attendre avant de révéler l'identification du tueur présumé. Autant demander à un notaire d'établir un faux. Et ce qui devait arriver arrive, le 26 mars 1998, RTL annonce en exclusivité que le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Colère chez les policiers, aveu de naïveté. Heureusement ce matin-là, Guy Georges n'écoute pas la radio. Vers 2h47, il est reconnu à proximité du métro Blanche par 2 agents qui se lancent à sa poursuite et parviennent à l'arrêter. Cette commerçante raconte.
J'ai vu 2 messieurs plaquer un autre, donc j'ai pris peur. J'ai d'abord voulu appeler directement la police parce que je pensais que c'était une bagarre. Et quand j'ai vu sortir des menottes, j'ai compris que c'était des policiers en civil. Ils m'ont juste demandé s'il y avait un endroit calme pour essayer de discuter. J'ai dit oui, je les ai envoyés au fond de l'appareil, ils se sont mis là. Et après, je les ai vus jubiler, sauter de joie, quoi. Ils se sont... C'est tout. Maintenant, j'ai peur parce que je pensais que c'était une petite affaire. Mais maintenant qu'on me dit ce que c'est, j'ai peur. Mais maintenant, oui, je suis contente comme tout le monde, quoi. Et un peu aussi soulagée. Mais sur le coup, je n'ai pas réalisé l'importance de ce qui se passait en face de moi, quoi.
Jubilation des 2 policiers après 3 jours de traque intense. Ils attrapent l'ennemi public numéro 1, le principal suspect dans cette série de meurtres dans l'Est parisien. Dans la foulée de son arrestation, Guy Georges est amené à la brigade criminelle. La scène qui suit appartient à l'histoire du 36 quai des Orfèvres. Menotté et tenu par 2 hommes, Guy Georges entre dans le mythique bâtiment de la PJ parisienne. Il a le front en sang après avoir heurté la devanture du magasin au moment d'interpellation. Alors, il entame la montée des 105 marches qui mènent au bureau de la crime. Une haie d'honneur s'est formée à droite et à gauche de l'escalier. Tous veulent voir l'homme qu'ils recherchent depuis 7 longues années, le personnage qui a hanté leur nuit. En haut des marches, Guy Georges se retrouve face au juge Gilbert Thiel. Le magistrat lui demande s'il sait pourquoi il est là. Guy Georges répond « Non, c'est pas moi ». Il s'évanouit. Une fois remis sur pied, il retourne devant le juge qui lui notifie 4 mandats d'arrêt pour les 3 homicides pour lesquels on a retrouvé son ADN.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Les policiers n'ont que 48 heures pour essayer de faire avouer à Guy Georges tous ses crimes, le temps légal d'une garde à vue. Ils veulent obtenir des aveux circonstanciés pour les meurtres sur lesquels ils n'ont pas de preuves tangibles. Le suspect commence par nier, puis finit par craquer et se met à parler. Les policiers préviennent alors leurs collègues qui enquêtent sur le premier meurtre, celui de Pascal Escarfaille en 1991. Le policier en charge du dossier se retrouve donc face à l'homme qu'il cherchait depuis près de 7 ans. Vertige. Il l'installe dans un cadre confortable, dans la pénombre, lui sert du café, calmement. Guy Georges a décidé de parler, alors il raconte ce qui s'est passé cette nuit du 24 janvier 1991. Extrait du procès verbal, écrit cette nuit-là.
Je me suis levé ce matin-là, et je savais que je tuerais avant la nuit. J'ai pris un Opinel et du Chatterton, et le soir, j'ai vu passer cette belle fille blonde. Elle m'a tout de suite plu et j'ai flashé. Je l'ai suivie. Je l'ai doublée dans l'escalier pour monter au dernier étage car je ne voulais pas l'inquiéter de suite. En haut, elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai déplié mon couteau, un gros Opinel numéro 12. Je lui ai répondu « Toi ». J'ai attaché ses mains avec du sparadrap que j'avais amené. J'ai coupé son slip sur les côtés avec mon couteau. J'ai également coupé son soutien-gorge devant, entre les bonnets. Une fois les actes sexuels accomplis, elle a essayé de me donner un coup de pied. Cela m'a mis en colère. Je suis sûr que dès le départ, j'avais l'intention de la tuer, sans vraiment trop savoir pourquoi. Je l'ai poussée sur le dos dans son lit et lui ai incisé la gorge. Une fois que j'ai constaté sa mort, j'ai retiré l'esparadrap. Je suis allé me laver les mains. J'ai pris deux bières sous l'évier. J'en ai bu une.
Puis c'est au tour de l'inspecteur en charge du dossier, Magali Sirotti, d'entendre Guy Georges. Là encore, le suspect reconnaît les faits dans les moindres détails. Mais pour les deux meurtres dans les parkings, Guy Georges ne veut pas reconnaître sa culpabilité devant le juge. Il finit pourtant par tout raconter aux enquêteurs chargés de l'affaire. Guy Georges est emprisonné. Son procès commence 3 ans plus tard. Un procès que les familles attendent, bien sûr, pour essayer de comprendre, pour tenter de faire leur deuil, selon la formule consacrée. « 19 mars 2001, cour d'assises de Paris. À 10h10, la silhouette massive de Guy Georges entre dans le box des accusés. En face se tiennent les parties civiles composées des parents des disparus et de leur avocat. Le président du tribunal présente à Guy Georges les chefs d'accusation. Agression, vol aggravé, 7 meurtres avec préméditation. Il encourt la réclusion à perpétuité. « Je veux dire que je n'ai rien à voir avec les faits qui me sont reprochés », répond-il. Stupeur dans la salle. La preuve génétique et les aveux circonstanciés sont là, mais non. Il clame son innocence. Son avocat, Alex Ursulet, s'en explique.
Guy Georges apparaît tel qu'en lui-même il est, alors qu'on avait procédé de lui un portrait invraisemblable pendant ces 3 dernières années. Et j'espère qu'au bout de ces 15 jours, l'on verra bien la différence qu'il y a entre ce personnage fantasmatique présenté par l'accusation et la personne et l'homme qu'il est. C'est ça l'avantage de ce procès, de ce vrai procès à la cour d'assises. Ce n'est pas le procès virtuel qu'on lui a fait, ce n'est pas cette espèce d'accusation lancée à tout bout de champ en disant « il est coupable ». C'est l'écoute à la fois d'une charge et d'une défense, au terme duquel j'espère l'on verra bien, on verra bien, que ça permettra au jury d'avoir l'intime conviction que cet homme n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.
Ancien collaborateur de Jacques Vergès, Alex Ursulet a conservé de son collègue un certain appétit pour les stratégies de défense offensive. Il s'appuie notamment sur les failles de l'enquête policière, portrait robot peu ressemblant, absence de pied égyptien, erreur dans la comparaison des ADN et puis les aveux auraient été forcés. Les premiers jours du procès s'inscrivent dans une ambiance pesante. Ils sont consacrés au parcours de Guy Georges, son enfance. L'abandon de la mère maternelle, l'adoption, puis la DAS, le public découvre avec effroi la double vie de cet homme. Le jour, constitué d'errance dans les squats, de séjours plus ou moins longs en prison, de petits boulots, de fêtes, d'amis. C'est un marginal qui se fait appeler Joe. Et la nuit, au moment où le démon se réveille, où il devient Joe the Killer, le jour et la nuit. Il détaille les premiers crimes, les premières agressions pour lesquelles il a fait de la prison, la manière aussi dont il a finalement échappé tout au long de son parcours à une réelle prise en charge psychiatrique. Au-delà des meurtres, et bien avant, Guy Georges a agressé, violé, presque tué. Certaines victimes découvrent au moment de son arrestation leur agresseur, celui que la police n'a jamais retrouvé. Comme cette femme, agressée en 1981 par Guy Georges et ses rituels, comme autant de signatures.
C'était le 16 novembre 81. Je me rendais chez mon médecin pour faire une déclaration de grossesse. J'ai pris l'ascenseur et dans l'ascenseur, il y avait un noir. Je suis montée avec lui. J'ai pas vu qu'il avait programmé pour descendre du deuxième sous-sol. Dès que les portes se sont refermées, il m'a donné un premier coup de couteau au sein. Aussitôt que les portes se sont refermées, on a commencé à descendre. Quand les portes de l'ascenseur au deuxième sous-sol se sont ouvertes, j'ai essayé de le pousser, en espérant que les portes allaient se refermer assez vite, que j'ai le temps de remonter. Et je me suis coupé la main avec son couteau, et il a réussi à bloquer la porte. De là, il m'a donné un deuxième coup de couteau au sein, et il m'a traîné dans la cage de l'escalier au deuxième sous-sol. Et il a baissé son pantalon, il m'a demandé de... Je dis les mots comme ils m'ont été dits. Hein. Il m'a demandé de le sucer. Alors, est-ce que je l'ai bien fait ou... Je pense que j'ai pas dû bien le faire, puisqu'il m'a donné un coup de couteau au ventre. Et puis, tout en me faisant tout ça, c'est « je vais te tuer, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Tu vas me reconnaître, tu... » Et puis, au bout d'un moment, il m'a fait mettre sur les marches de l'escalier, m'a demandé de m'allonger. Il a découpé ma robe avec son couteau, mon soutien-gorge au milieu du bonnet, et la culotte sur les côtés. Il m'a violée. Tout en faisant ça, il tenait son couteau à ma gorge. Il m'a redemandé de le... une fellation. Et puis, à la fin, il est revenu près de moi. Il m'a donné un coup de couteau à la gorge, comme pour me saigner, comme si j'étais un cochon qu'on saigne. Et puis, il a pris mon porte-monnaie, il est parti.
Les jours suivants sont consacrés à ces crimes. Chaque jour est entièrement dédié à un meurtre dans l'ordre chronologique. Guy Georges nie, revient sur ses aveux. Et puis, au cinquième jour, le procès bascule. Il est question de l'assassinat d'Elsa Benadi. À nouveau, on confronte Guy Georges aux photos de la scène du crime. Depuis quelques jours, il est plus tendu, son visage s'est départi du sourire et de l'aisance qu'il affichait au début du procès. Maître Solange Doumic, l'avocate de la famille, décide d'attaquer et de le piéger. Elle lui demande s'il est droitier ou gaucher. « Droitier », répond-il. Elle lui fait remarquer que pourtant il tourne les photos ou prend le micro de la main gauche. Pour les photos, oui, sinon. Et d'un geste brusque, plein de terreur, il tend sa main droite en l'air, il mime un coup qui part, et là, il se rend compte de son erreur. Son geste est comme un aveu. Ses avocats essayent de le rassurer, de le convaincre de s'expliquer. Maître Frédéric Ponce, son autre avocate, fond en larmes. La séance est interrompue. Le procès vient de basculer. La défense est obligée de changer de stratégie. Maître Alex Ursulet revient sur ce bouleversement.
Ce moment terrible que nous avons vécu, s'il est vrai qu'il n'est pas facile de défendre Guy Georges, et si, par moment, la défense a pu donner le sentiment, par des questions peut-être maladroites, ne pas partager la douleur des victimes, c'est une impression. C'est une fausse impression, parce que nous partageons la douleur des victimes. Il nous arrive aussi de plaider pour des victimes. Guy Georges est tendu, fatigué. Ça va faire une semaine d'audience. Il sait que la semaine qui vient est difficile. Il a besoin de se retrancher en lui-même. Et nous sommes là, en attente de cette journée de lundi.
Qu'est-ce que vous allez lui demander ce week-end ? Est-ce que vous allez lui parler ?
Je vais lui parler, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous allez lui dire ? Lui conseiller ?
Qu'est-ce que vous voulez que je... Je vais continuer à faire mon métier, c'est-à-dire que je vais l'écouter, c'est-à-dire que je vais essayer de l'entendre. Voilà, je vais faire mon métier. Vous savez, c'est défendre Guy Georges n'est pas descendre un long fleuve tranquille, c'est remonter une rivière à contre-courant. Et tout à l'heure, quand j'entendais la sœur de la victime dire qu'elle souffrait, mais je partage sa souffrance. L'avocat de Guy Georges n'est pas quelqu'un qui ne peut pas comprendre cela. Simplement qui demande qu'il y ait une défense, qu'il ait la possibilité d'exprimer sa défense et tout.
Guy Georges dispose du week-end pour réfléchir. Il dit « ce que j'ai à dire, ça ferait mal à tout le monde, je n'arrive pas à le dire ». Le procès reprend le lundi suivant comme prévu. L'accusé revient, se mure dans le silence. Le lendemain, il doit être confronté à Elisabeth Ortega, la rescapée. Son avocat, Alex Ursulet, s'approche de lui, lui parle de son père, du pardon. Et puis à la question, avez-vous agressé Elisabeth Ortega ? Ouais, murmure-t-il. Guy Georges vient d'avouer. Son avocat dresse la liste des victimes de son client qui est en larmes. Entre deux sanglots, il murmure, oui. Guy Georges reconnaît les faits, les jeux sont faits. Au 14e jour, le verdict tombe. Guy Georges est condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté. Alors, il demande pardon à toutes les victimes. Un pardon trop dur à accepter pour certaines.
Quand on a vu sa fille dans un cercueil 2 mois après son décès, en décomposition, on ne pardonne pas. Je ne suis pas catholique, Dieu pardonne, nous on ne pardonne pas. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Le temps que j'ai devant moi, je souhaite ne jamais le rencontrer. Il a demandé pardon, ça ne veut rien dire. Il n'a aucun savoir-vivre, il a respect des personnes. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il a demandé pardon, parce qu'il a peur pour son existence à lui.
Après 7 ans d'enquête et 2 semaines de procès, la nécessité de mettre en place un fichier national des empreintes génétiques devient une évidence. Il est voté le 17 juin 1998. Les psychiatres qui se sont succédés à la barre pour essayer d'expliquer le cas Guy Georges sont tous arrivés à la même conclusion. Cet homme-là n'est pas fou, il est conscient de ses actes. C'est le profil du monstre froid, indéfendable aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, sauf pour ses avocats, bien sûr, sauf pour l'état de droit qui nous rappelle en toutes circonstances que la mission d'un avocat n'est pas d'aimer l'accusé, mais d'aimer défendre l'accusé.
De batterie coule sur la FM, il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais de Claudem si le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claudem si s'installe. Ancré dans les annales, exemple, le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dire authentique, pas en toque. Prêt à frapper, c'est le beat pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, traité par un truc un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Plus de temps tu claques, lui, MC des Carpates, un MC. Frédéric authentique sans aucune panique, prêt à frapper, c'est le beat. Alors mon ami, écoute bien cette musique, car qui sème le vent récolte le tempo. Le pédagogue au vogue au nom de code sous la route, le MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur. L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent récolte le tempo. Sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, le dossier Guy Georges dont nous allons parler avec notre avocate Frédéric Ponce. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous en prie, avocate pénaliste. Vous avez défendu donc Guy Georges. Vous témoignez de cette expérience dans le livre de Julia Minkowski et Lisa Vignoli, L'avocate était une femme, le procès de leur vie, paru chez Jean-Claude Lattès l'an dernier. Alors première chose, comment êtes-vous arrivé à défendre un serial killer? Quelles ont été les circonstances qui vous emmenaient jusque-là?
Oh, bah, les circonstances étaient très particulières, puisqu'en fait, Guy Georges était défendu à l'époque par Alex Ursulé. Donc, Alex Ursulé était mon ex-mari avec qui j'avais déjà travaillé. Voilà, et tout simplement, il m'a demandé, 2 mois à peu près avant les assises, de venir avec lui, le défendre, parce que, voilà, c'était un dossier important, lourd. Il y avait à peu près 20 tomes de documents à analyser. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement.
Alors, vous écrivez dans le livre consacré au témoignage d'avocate, et je vais reprendre un certain nombre de vos explications, de vos affirmations, et on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, vous dites que les 10 années de traque du violeur vous ont complètement échappé. Que voulez-vous dire ?
Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais pas l'âge aussi. Je veux dire, je me suis jamais identifiée. Dans votre reportage, on a entendu qu'il y avait eu une psychose à un moment donné. Voilà, je me souviens pas d'avoir de cette
psychose. Mais qui est pas imprégné de cette histoire.
Voilà, en fait. Exactement. Et c'est vrai que même avant les assises, peut-être parce qu'il a fallu surtout que je lise le dossier. Mais je suis arrivée à l'audience, j'avais très peu lu la presse, sans doute heureusement. D'ailleurs, parce que voilà, faut rester un peu détaché de l'émotion de du procès médiatique.
Alors, comment se passe la première rencontre ? Quels souvenirs vous en avez précisément ?
Ce que je tenais, parce que on sait bien qu'un confrère, ça arrive tous les jours, que des confrères vous demandent de venir sur un dossier à leur côté, de les aider, parce que c'est bien d'avoir un double regard, souvent, surtout, j'allais dire, dans ces affaires-là. Mais c'était pour moi essentiel de rencontrer Guy Georges, donc ça s'est fait tout simplement au parloir de la Maison de la Santé. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir particulier, parce que j'ai eu le sentiment aussi... épouvantable peut-être que ça paraisse à entendre, mais j'ai eu le sentiment de rencontrer quelqu'un, j'allais dire, de sympathique, sans perversité, parlant posément de ses affaires, des accusations, de soutenant que ce n'était pas lui, se déclarant prêt à refaire un test d'ADN, enfin... Voilà, pour moi, c'était important de pouvoir avoir, j'allais dire, un minimum d'empathie pour la personne que j'allais défendre. Enfin, on est vraiment sur le terrain de ce que j'appelle les atomes crochus. Vous rentrez dans une pièce, vous pouvez avoir immédiatement une détestation très forte pour quelqu'un. En général, il vaut mieux pas la défendre. Voilà, c'est juste, ça peut paraître superficiel, mais pour moi, c'est très important quand on défend quelqu'un.
À ce moment-là, vous le pensez innocent ?
Vous savez, là... J'ai appris que la vérité judiciaire ou la vérité, c'est quelque chose de très particulier. Ce qui est, quand on doit défendre quelqu'un dans une procédure pénale, il faut savoir que c'est à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité. C'est ça qui est très important. Donc après, ce qu'il faut, c'est, on est là pour étudier le dossier, étudier les pièces. Y a-t-il suffisamment de preuves d'accusation ou pas? Et face aux pièces, qu'est-ce que la personne est capable de vous dire? C'est très chirurgical. Ce que je pense,
ça s'appelle les éléments matériels, c'est ça?
Voilà. Ce que je pense à la limite n'a que peu d'importance. C'est y a-t-il moyen de se défendre? Et là, comme on l'a vu dans votre reportage, on sait très bien qu'il y avait eu des affaires qui au départ étaient instruites différemment, qui après ont été reliées. Donc ça veut bien dire que si au départ elles étaient différentes, c'est donc elles sont peut-être pas à l'origine, elles n'ont pas à l'origine le même homme, vous voyez, il n'a pas le pied égyptien, etc. Et puis il y avait cette erreur d'ADN qui était quand même absolument énorme. Donc il y avait des tas d'éléments matériels à plaider.
Quelle question vous lui posez ? Beaucoup de questions ou 2-3 questions cardinales, voilà, les questions les plus importantes.
Oui, deux trois questions, effectivement. C'est d'abord, quelle est sa position ? Puisqu'on était à quelques jours de l'audience d'assises, et qu'il avait changé quand même au cours de la procédure, puisqu'il avait commencé par avouer certains faits, puis il s'était rétracté, il s'était muré dans le silence, donc j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Donc 1, c'est pas lui, et 2, encore une fois, c'est vrai que dans tous ces dossiers, on dit toujours que la preuve maîtresse, c'est l'ADN. Or, quand en 95 on décrypte son ADN, le rapport d'expertise contient une faute de frappe. Donc pour moi, c'est un rapport qui ne vaut rien, un rapport qui a une faute de frappe. On peut pas lui faire confiance. Donc le minimum qu'il fallait, que la justice devait à Guy Georges, pour moi, c'était de refaire un test ADN. Est-ce qu'il était prêt à se à ce qu'il y ait enfin un nouveau prélèvement ADN. Il me dit oui. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Après, on y va.
Ouais.
On voit bien.
Alors, c'est un gros dossier. Et évidemment, oui. Vous parliez de 20 hommes.
Oui.
Et moi, je me dis que prouver l'innocence d'une personne sur un crime, c'est déjà pas facile. Mais sur 7.
Vous avez raison.
Vous y êtes prise comment?
Mais d'ailleurs, on n'y est pas arrivé.
Hein, oui,
que les choses soient
enfin,
claires.
Enfin, l'objectif, quoi.
Mais l'objectif, vous savez, je dis toujours, enfin, pour moi, les assises, c'est un peu embarquer sur un bateau. On part en mer, on ne sait pas du tout si le vent va être là ou pas, s'il va y avoir des coups de fouet, si la mer va être démontée ou pas. Mais on est là, on y va, faut faire face. Voilà. Donc là, nous, on savait, bien sûr, il y avait sept meurtres, il y avait 3 viols. Donc, on savait très bien que on avait le calendrier, les faits allaient être examinés les uns après les autres. Bon, voilà. On a bataillé, dossier par dossier, témoin par témoin, bah, jusqu'à ce que tout ça parte, tout ça explose en plein vol.
Ah bah justement,
c'est passé.
Ouais. Avec Guy Georges, je savais que tout pouvait exploser, mais je n'en avais pas peur, dites-vous dans le livre.
Oui, on sait bien quand même que face à la machine judiciaire, comme vous dites, on peut plaider un acquittement, mais cette fois, c'était beaucoup. Donc, je savais que le challenge était fort et que, encore une fois, je sais qu'aux assises, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Un témoignage peut tout faire basculer. Et là, ça a été la question de Solange Doumic, qui a été formidable, l'avocate de partie civile. Et la réponse muette de Guy Georges, qui était ce geste mimant, le fait un coup de couteau, un coup de poignard, enfin avec force en plus, avec un regard terrible. Solange Doumic a toujours dit qu'elle avait le sentiment qu'il avait voulu vraiment la trucider du regard. C'était très 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 violent. On vous parle toujours de cette cour d'assises en vous disant qu'elle est très très grande. Et c'est vrai qu'elle est grande, elle est très haute de plafond, mais en même temps, le face-à-face est assez présent. C'est-à-dire, on n'est pas très éloigné du banc des parties civiles. C'est quelques mètres. Donc, quand quelqu'un se sent fusillé du regard, la violence est là. Voilà, donc Guy Georges, en ce geste, avait tout dit.
On reviendra sur ce point de bascule, juste une question avant. Une instruction dure plusieurs mois, voire plusieurs années.
Plusieurs années, oui.
Qu'est-ce qui fait que, dans un laps de temps, un espace-temps aussi court que les assises, on puisse aller d'un seul coup beaucoup plus loin que pendant des années d'instruction? C'est le décorum, c'est la gravité du lieu. Qu'est-ce qui fait que ça peut faire basculer?
Oui, vous avez raison, le décorum, la gravité du lieu et la tension. Parce que, en face de lui, Guy Georges est au moins, en permanence, il devait avoir au moins 5 ou 6 avocats qui l'ont bombardé de questions, puisqu'il faut, avant, la procédure des assises était assez formelle, c'est-à-dire que quand un avocat voulait poser une question, il fallait qu'il passe par le président. Donc c'était lent, c'était ça. Maintenant c'est direct, donc un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire. Et là, sous le feu des questions, il y avait une tension très forte. Et
qui peut faire flancher.
Et qui fait flancher, oui.
On va se retrouver dans 3 minutes pour continuer cette conversation passionnante. Frédéric Pons, après avoir écouté Émilie Loiseau, qui chante « Celle qui vit vers le sud ».
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre sourit et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. visage. Je prie souvent pour ça.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Frédéric Pons, avocate de Guy Georges, je le rappelle. Donc, quand Guy Georges se piège lui-même, vous appelez ça un moment d'assise, effectivement.
Ah oui.
C'est vraiment un moment d'assise. Quelle est votre réaction?
Ben, la
visible, visible et pas visible, les deux.
Ben, pas visible, c'est quand même c'est la consternation, parce que je savais bien qu'avec ce geste... pour moi, il avait tout dit.
C'était plié, quoi.
Oui. Mais en même temps, ben, on est là pour sauver l'aider. Et puis, bon, peut-être, Guy Georges avait déjà été condamné pour des faits d'agression. Donc, en fait, immédiatement, moi, je me suis tournée vers lui pour, en lui posant des questions, en lui disant, mais que voulez-vous dire par ce geste? Il aurait pu me répondre, ben, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai agressé Madame Machin il y a 10 ans et peine pour laquelle j'ai été condamnée. Bon, ça aurait permis fin de l'histoire, on aurait pu s'en sortir. Mais en fait, à partir de ce moment-là, il a complètement changé d'attitude. On avait en face de nous quelqu'un de totalement fermé, qui après il a un peu refusé de répondre aux questions. Enfin, donc voilà, il s'est enfermé dans un silence et dans une attitude qui était un aveu, quoi.
Et vous l'avez vu, c'est une pièce attenante au tribunal pour que vous puissiez lui parler, vous entretenir avec lui. Donc comment ça s'est passé là, à ce moment-là?
Ben après, je me rappelle, plus exactement la chronologie, mais c'est vrai qu'après il y a une suspension d'audience, donc il était dans cet état. J'avais l'impression d'avoir que son corps était une barre de fer complètement tordue. Il était totalement différent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je le vois dans une pièce à l'arrière où il y a des gendarmes. Bon, mais c'est vrai que là, j'ai été contente qu'il y ait des gendarmes et qu'il y en ait un notamment qui s'assoit juste à côté de nous. Parce qu'on avait le sentiment, je pense qu'il a eu, ce gendarme a eu le même sentiment que moi. On a eu le sentiment que Guy Georges, il était reparti très loin et il pouvait sauter sur n'importe qui. Enfin, tellement il était fou de rage.
Et vous, il vous fallait alors, pour le coup, changer de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il se coince lui-même, on a plaidé l'innocence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Oui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je considérais que notre devoir, c'était de toute façon de rester à ses côtés. Parce que Guy Georges, comme tout accusé au moment de la cour d'assises, ils sont seuls, on est leur seul intermédiaire, je veux dire, toute la journée ils sont aux assises, le soir ils rentrent en détention, ils voient personne d'autre, donc il était hors de question de le quitter à ce moment aussi important. Donc moi je pensais, avec Alex Ursulé, on était d'accord là-dessus, que il fallait l'amener à la parole.
Ouais.
Parce que, voilà, je considère qu'il y a un moment donné, il faut faire face à ses actes, il faut être capable, il faut être capable de déclarer qu'on en est responsable. Et puis, oui, c'était quelque chose qui était dû aux familles de victimes. Il fallait pouvoir qu'elles arrêtent de se poser 15 000 questions. Voilà, donc je voulais notre souhait, c'était qu'il se comporte comme un homme face à la justice et qu'il puisse... s'expliquer.
On va parler un peu de vous maintenant, il reste quelques minutes, suivre finalement la ligne éditoriale du livre qui nous a donné l'inspiration pour faire cette série. Le regard des familles sur vous, comment ça se passe? quand on défend, Guy Georges, qu'il y a les familles des victimes, est-ce que les regards se croisent entre vous, les familles? Comment ça se passe?
Il y a eu, oui, bien sûr, il y a de tout. C'est-à-dire, il y a celles qui ne comprennent pas. Mais je dirais que majoritairement, il y a un respect pour l'avocat de la défense. Il y a une compréhension de ce que l'on...
De ce rôle,
de ce qu'on fait. Et une compréhension aussi du fait qu'on doit poser des questions indélicates. Parce que le problème, c'est ça. C'est que souvent, on vous dit « Oh oui, bien sûr, tout homme a besoin a le droit d'être défendu. » Mais, en général, on aime bien qu'il soit défendu avec des gants, poliment, gentiment. Or, c'est pas ça. La défense, on est là pour poser les questions qui fâchent. On est là pour renverser la table, s'il faut renverser la table. On n'est pas là pour être bien élevé. On respecte, bien évidemment, on est là, la douleur des familles, c'est quelque chose de très important. Mais le procès, c'est pas un accusé face à des plaignants ou des victimes, c'est un accusé face au ministère public. C'est ça, c'est le ministère public qui doit prouver l'accusation et la défense qui est là pour montrer qu'il n'y a pas suffisamment de charges. Et le juge, voilà. Certes, les victimes ont leur place est essentielle, mais le débat, nous ne sommes pas contre les parties civiles, nous sommes contre le ministère public.
Est-ce que vous êtes entendu dire, par exemple, mais tu vas pas défendre un type qui tue des femmes, toi qui es une femme?
Sans arrêt.
Sans pas arrêt. De la part de vos collègues, j'espère.
Non, mais
forcément.
Sans arrêt, ça fait partie. Guy Georges, que ce soit Guy Georges ou tout ça, ce sont des monstres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais au contraire, c'est bien parce que de toute façon, j'étais une femme que je considérais qu'il fallait absolument que je reste à la barre pour plaider pour Guy Georges.
Dans le film, alors on vient par ça, parce que c'est plus anecdotique, mais dans le film SK1, qui raconte l'histoire de Guy Georges, vous êtes très présente, Nathalie Baye joue votre rôle.
Mais quel honneur!
Oui, quel effet ça procure?
Oh mais c'est fou! Bon.
Et Ursula, l'a pas trop mal pris? Il est moins en lumière que vous dans le film.
Oui, non, il ne l'a pas très très bien pris. Non, il l'a pas très très bien pris. Je crois qu'aujourd'hui ça rancune et c'est un peu estompé, mais
Elle a duré longtemps?
Il ne m'a pas adressé la parole pendant 2-3 ans. Comme par hasard, c'était juste après la sortie du film. Donc j'ai considéré qu'il avait dû en prendre ombrage.
Bon. Merci en tout cas, Frédéric Pons.
Merci beaucoup à vous.
Je voudrais juste délivrer un message à propos de pas mal de femmes qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux en disant « Mais pourquoi vous avez reçu l'avocat de Canta? C'est un féminicide, c'est un meurtre. » Bah oui, mais tout le monde a le droit à être défendu. Et on le rappelle là, peut-être qu'on va me dire aussi « Mais pourquoi l'avocate de Guy Georges ?» Je répondrai de ma façon, parce que tout le monde a le droit à une défense. Mais ça paraît tellement simple qu'il me paraît tout à fait étonnant d'avoir à le dire, mais je le dis quand même.
Voilà, et c'est important de toujours le dire et de rappeler la présomption d'innocence pour tous ceux qui sont accusés et qui restent innocents jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation définitive.
Ce sera le mot de la fin, Frédéric Pons.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui. Guy Georges, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr et ailleurs. À la technique, il y avait aujourd'hui Ronan Mahé. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Juliette Proutot et Simon Maisonneuve. Lecture, Philippe Reltien, attaché de production, Rebecca Donante. Programmation musicale, Valentine Chaudebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combes.